La nuit était glaciale, la neige tombait. Attendez-nous. C'était mademoiselle de Garambois qui, en mitouflée de fourrure et accompagnée de son oncle, les appelait. « Je vous emmène à la maison, reprit-elle, non pour souper, ce qui serait peu monastique, mais pour boire un verre de punch chaud devant un bon feu. » Ils partirent à la suite les uns des autres par un sentier qui s'effaçait déjà sous la neige. L'on apercevait dans toutes les directions des lumières qui couraient et, au loin, les auberges jaillissaient avec leurs carreaux rouges dans le noir. Sous prétexte de punch, la brave hôtesse avait accumulé sur une table des masses de pâtisseries et de viande froide. La salle à manger était quiète. C'était la salle à manger bourgeoise, avec le buffet et les chaises Henri II, mais la flambe joyeuse des pains grimpait, en embaumant la résine dans l'âtre. Durtal se rôtissait les souliers. « Nous sommes victimes d'un guet-apens, disait en riant mademoiselle Bavoile. « C'est un véritable souper que notre ami nous menace. Enfin, le jour de la nativité, un peu de gourmandise est permis. » Mais elle se contenta, malgré toutes les instances, d'avaler un bout de fromage et de pain. La neige continuait de choir. Les feux des lanternes avaient disparu sur les routes. Des hurlements d'ivrognes retentissaient de toutes parts. Les paysans ribotaient au sec. Quel dommage, ils étaient si bien tout à l'heure quand ils chantaient avec les religieux, remarqua madame Bavoile. « Oh ! S'exclama Durtal, ne nous emballons pas. Ceux qui chantaient à l'église sont ceux que le cloître emploie. Ils vont à la messe pour inspirer confiance au père, mais attendez que les moines soient partis. Dans tous les cas, en admettant, contre toute vraisemblance, que ces gaillards-là sont de bonne foi, ils seraient bien dans la tradition du Moyen-Âge, fit M. Lempre, car la piété n'excluait pas une liesse un tantinet grossière chez nos ancêtres, en Bourgogne surtout. Nous n'avions point en ces temps, honni par les imbéciles, le béguelisme. Savez-vous, madame Bavoile, qu'autrefois, avant la messe de ce jour, l'on célébrait solennellement, dans certaines églises, la fête de l'âne, et, excusez du peu, l'auteur de l'office, parole et musique, n'était ni plus ni moins que Monseigneur Pierre de Corbeil, archevêque de Sens. Mais oui, du XIIIe au XVe siècle, le pauvre âne a participé au triomphe du Rédempteur. Quand je songe qu'il a servi de monture à Jésus, murmura madame Bavoile, j'ai envie de l'embrasser sur les naseaux lorsque je le rencontre. Il y eut aussi la fête des fous, reprit M. Lempre en riant. Les acteurs élisaient un évêque qu'ils intronisaient en des cérémonies ridicules. Et ce bouffon bénissait dans la basilique le peuple et présidait à des offices dérisoires, tandis que les paysans, barbouillés de moue et déguisés en batteleur ou en ribaude, l'enfumaient avec du cuir de vieille savate brûlée dans l'encensoir. « Je ne vois pas ce que de semblable bacchanal pouvait avoir de religieux, » observa madame Bavoile. Mais si, l'origine de ces parodies était liturgique. L'âne était honoré à cause de l'ânesse qui parla et fut, en quelque sorte, cause, par ses remontrances, que Balaam énonça, devant le roi des Moabites, sa célèbre prophétie sur la venue du Messie. L'espèce asine, qui fut une des annonciatrices du Christ, l'assista dès qu'il fut né, près de la crèche, et le porta en triomphe le jour des palmes. Elle avait donc sa place toute marquée dans l'anniversaire de Noël. Quant à la festivité des fous, elle s'appela de son vrai nom la festivité du dépôt-suite, par allusion au verset du magnifique tact « Dépôt-suite potentes décédé ». Elle avait pour but d'abaisser l'orgueil et d'exalter l'humilité. Les évêques, les prêtres n'étaient plus rien, étaient comme déposés ce jour-là. C'était le peuple, les machicots et les clercs de matine qui étaient les maîtres, et ils avaient le droit, dont ils usaient, de reprocher aux religieux et aux prélats leur prévarication, leur simonie, leur péché d'exception, d'autres encore peut-être. C'était le monde renversé. Mais, en tolérant jusqu'au moment où elles dégénérèrent en pure farce ces parades revendicatrices, l'Église ne fit-elle pas preuve de condescendance et de largeur d'esprit? Ne montra-t-elle point, en souriant de ses folies, combien elle était indulgente pour les petits et combien elle était contente de les laisser s'alléger de leurs griefs en rendant eux-mêmes la justice avant que de se divertir? Le fait est que c'était drôle dans ce temps-là, s'écria mademoiselle de Garambois. Imaginez-vous que pour se moquer de moi sans doute, mon oncle m'a prêté un livre d'une bénédictine de je ne me rappelle plus quel siècle. Du dixième, dit M. Lambre. Il s'intitule « Le théâtre de Hortzwita ». Je croyais bêtement, moi, que c'était une œuvre mystique. Or, ce sont des pièces que cette religieuse écrivait pour son cloître. Et il y en a une, je ne sais vraiment comment expliquer le sujet sans rire. Elle se nomme « La passion de Saint Gandolphe ». « Eh bien ?» interrogea Madame Bavoil. « Eh bien, Saint Gandolphe, qui était prince, épousa une femme dissolue qui le trompa. Le pauvre prince s'aperçut de son malheur et se tut. Mais la princesse, irritée de se voir découverte, l'assassina. Aussitôt des miracles éclatèrent sur sa tombe. Elle s'en moqua, disant qu'elle s'en fichait comme une de ces choses que l'on attribue si malhonnêtement aux nonnes. Oui, une sorte de beignet, vous comprenez? Et elle fut immédiatement punie par un châtiment approprié au terme même de son mépris. Tant qu'elle vécut, elle s'éperdit en des fuites sonores, et cela sans arrêt, raconte placidement la joyeuse Hortzwita. Cela prouve, dit Durtal, en admettant que les œuvres de cette moniale ne soient pas apocryphes, la gaieté simple des cloîtres bénédictins du Xe siècle. Remarquez d'ailleurs que les plaisanteries scatologiques sont encore chères aux gens d'église, et c'est assez naturel. Les autres, celles sur les femmes, qui délectent les laïcs aux fins des repas entre hommes, leur sont interdites. Ils se rattraperont donc sur celles-là, qui ne sont ni plus malpropres, ni plus sottes d'ailleurs, et elles ont au moins cet avantage d'être innocentes. L'ingénuité un peu barbare fut un des charmes des abbayes d'antan. Allez donc trouver aujourd'hui cette qualité-là dans nos monastères, reprit M. Lampre. J'aurais été surprise si vous n'aviez pas encore bêché nos moines, dit mademoiselle de Garambois. Heureusement, poursuivit-elle en souriant, que ces débinages ne sont que les blasphèmes de l'amour, et que vous serez encore trop content si les bénédictins viennent à être chassés d'ici, de vous mettre en quatre pour leur rendre les services dont ils auront besoin. Je serai sans doute encore assez godiche pour cela, fit en riant M. Lampre. Au fond, n'empêche que leur petitesse d'intelligence et de sainteté m'enrage, car je les aime trop pour ne pas les vouloir plus grands, et Dieu sait si les matins s'acharnent à ne pas pousser. Si l'on allait se coucher, dit Madame Bavoil, la nuit s'avance et il faut quand même se lever demain. Aujourd'hui, ne vous en déplaise, car 3 heures sonnent, répondit Durtal, qui ralluma les lanternes. Ce monsieur Lampre, il est bien instruit, fit Madame Bavoil, en pataugeant dans la neige, et je ne doute pas aussi qu'il n'ait bon cœur. Mais il me semble qu'il est vraiment trop mécontent des autres, et pas assez de lui-même. Ah, vous requérez vous aussi des saints, hélas! Le coin est quasi brisé, et le grand monnayeur n'en frappe guère, ça et là pourtant, en des retraits de province ou des fonds de ville. Il en existe certainement dans les cloîtres. J'en ai personnellement connu à la trappe de Notre-Dame de Lattre. Il y en a dans d'autres acétères, mais cela ne se mêle point à la vie du dehors. Et comment les connaître, puisque ce sont justement ceux que l'on ne voit point? L'un d'eux, que l'on vit beaucoup pourtant, serait récemment décédé dans un couvent bénédictin de la Belgique, reprit Durtal, après un silence. mais les renseignements que l'on m'a fournis sur son compte sont contradictoires. Ne les acceptez donc que sous bénéfice d'inventaire. Ce moine, le père Paul de Molle, aurait été l'un des plus extraordinaires thaumaturges de notre temps. Il guérissait, comme en s'amusant, tous les maux. Il n'en dédaignait aucun, extirpait le mal de dents et la migraine, aussi bien que la phtisie et le cancer. Affections incurables et bobos, il les supprimait, sans paraître y attacher la moindre importance. Il soignait indistinctement les hommes et les animaux, pratiquait très simplement, effaçant sa personnalité, prescrivant tout bonnement du jet d'eau dans laquelle on aurait trempé une médaille de Saint-Benoît. Ce religieux qui fut notre contemporain, car il naquit en 1824 et mourut en 1896, fit partie du cloître de Termonde. Il rétablit l'abbaye d'Afflingham et fonda le prieuré de Steenbrugge. Il était, du reste, un religieux épris de macération et féru de sacrifices. Mais il fallait le savoir, tant l'allégresse et la bonne grâce de cet homme, fumant doucement sa pipe, pouvaient donner le change aux gens. Maintenant, de tous ces miracles qui se dénombrent par centaines dans les Flandres, que peut-on croire? Quelques-uns semblent avérés, d'autres auraient besoin d'être démontrés, car ils ne s'étayent que sur des suppositions et sur des racontars. Sa biographie, écrite par un monsieur Van Speybroek, avec une bonne foi persuasive, est si incohérente, si en dehors de toute préoccupation historique, que l'on ne saurait s'y fier. Espérons, pour la gloire de l'ordre, que le père de Molle ne fut pas un simple sorcier, mais un vrai saint. L'Église seule est à même de trancher la question et de nous éclairer. Chapitre 8. Il y eut une détente. Le vin devint moins âpre. Le soleil, qui semblait perdu, reparut par instants dans le ciel de fer et blondit de ses lueurs furtives le sol. Ce fut un réveil momentané du jardin. Des arbustes vivants sortirent d'une terre qui paraissait morte. Les buis, aux petites feuilles orangées creusées en cuillère et devenues cassantes sous le doigt, des genièvres aux aiguilles bleuâtres et aux grains fripés d'un indigo noir, surgirent comme d'une sorte de couche de cassonade striée par le gel qui fondait de filets blancs. Les fusains, les okubas, les taxus, les romarins restés verts, les buissons ardents dont les baies vermillons tournaient maintenant à la teinte du temps, égayèrent de leur verdure les massifs dont toutes les autres plantes n'avaient gardé que des tiges sèches et brûlées par le feu glacé des bises. Mais malgré tout, ces végétations avaient quelque chose de souffroteux. Elles avaient l'air de convalescentes à peine sorties de leur lit de neige. Une seule famille s'épanouissait à l'aise dans le froid, les élébores. Celles-là pullulaient le long des allées. Certaines espèces, telles que les roses de Noël, étaient en pleine floraison, et leurs fleurs d'un rose violâtre, d'une nuance maladive de cicatrices, de plaies qui se ferment, évoquait bien l'idée d'une plante dangereuse, suant des sucs vénéneux, puant les poisons. D'autres élébores noirs, aux feuilles déchiquetées, sciées et dentelées sur les bords, aux fleurs en coques roulées, étaient pis encore. À les arracher, on les trouvait munis de racines grêles, pareilles à ces cheveux qui pendent sur la boule des oignons. Les vieux botanistes du XVIe siècle les appréciaient, disant qu'elles évacuaient le flegme et la colère, et guérissaient la gratelle, l'impétigine, les rognes, les gales blanches et autres vices du sang. Mais elles n'en conservaient pas moins un aspect sinistre, avec leur feuillage de deuil et le vert de pommes pas mûres de leurs fleurs, qui, de même que leurs congénères, les roses de Noël, baissaient toute la tête, n'avaient pas cette allure franche et gaie de la flore saine. Le jardin n'était rien moins qu'attrayant à cette époque, avec ses taillis de plantes ratatinées et ses touffes de fleurs louches. Aussi Durtal n'y descendait guère. Il s'y promenait ce matin-là pour tuer les 10 minutes qui le séparaient de l'heure du train. Pour une fois que le temps était propice, il projetait d'aller à Dijon afin de réaliser quelques achats de cravates et de bottines retardés par la perspective de geler en wagon et de ne pouvoir se promener dans la ville. Et il se disait « Je puis d'autant mieux me dispenser d'assister à la grand-messe ici que je commence à la connaître par cœur. Elle est la même depuis 6 jours. » L'octave de l'Épiphanie ayant, pour une semaine, refoulé le défilé des saints. Sans doute, cette messe était charmante, malgré son médiocre introït. Le Kyrie est très beau, plaintif, un peu précieux. Le Gloria est allègre et vénérant. Et la deuxième phrase du graduel, Surge et illuminare Jérusalem, et l'Alléluia sont exquis. À l'offertoire, le Reges Tarsis est lancé droit, tel qu'une flèche, et l'on entend jusqu'au dernier vibrement de son parcours. Mais j'ai encore demain pour l'écouter. Une messe basse me suffira aujourd'hui. Profitons de l'occasion de la liturgie et de la bienveillance de la climature. Et il s'était dirigé vers la gare. Une fois assis dans le train, il avait hélé par la portière le père de Fonteneuve, qui cherchait une place, et dont Prieur était monté dans le compartiment. Après avoir bavardé de choses et autres, le moine, parlant du nouveau curé, installé dans la commune depuis quelques jours, demanda à Durtal s'il l'avait vu. « Oui, il m'a honoré d'une visite hier, et je vous avoue, si vous tenez à connaître mon opinion, que l'impression laissée par ce prêtre est plutôt hostile. » Il m'a produit l'effet d'une jeune paysanne assez mal élevée, mais qui ferait ce qu'on appelle en argot parisien sa tata. Il a une façon de se tortiller sur sa chaise, de coqueter, de jouer de l'éventail, d'esquisser des gestes de fillette, appréhendant, tout en le désirant, un rapt, qui ne me dit rien qui vaille. Je lui ai pratiqué, dans la conversation, quelques pesées sur l'âme, pour la forcer, et j'y ai découvert, en su d'un insens absolu de la mystique et de la liturgie, une vanité qui vous amènera, j'en ai peur, mon père, bien des ennuis. Mais voyons, et ces réparations que l'on a commencé à la cure, avancent-elles ? Oui, le maire et le conseil municipal, du moment qu'il ne s'agit plus des moines, se montrent aimables. Ils avaient toujours refusé, tant que nous occupions le presbytère, de remettre même une ardoise au toit. Mais maintenant, tout socialiste qu'il soit, ils miment des risettes et tâchent d'amadouer leur nouveau pasteur. Leur jeu est évidemment de nous brouiller avec lui. J'espère qu'ils n'y réussiront pas. Nous sommes résolus, du reste, à lui céder autant que possible pour éviter tout conflit. D'ailleurs, si ce petit curé est, et je vous l'accorde, un peu prétentieux et infatué de lui-même, il n'en est pas moins très bien disposé à notre égard et très gentil. Vous l'appréciez sur quelques grimaces, mais nous qui l'observons depuis 8 jours, qu'il vit déjà au milieu de nous, dans le monastère où on lui a offert le couvert et le gîte, en attendant que la cure soit habitable, nous sommes satisfaits de lui et convaincus qu'il est un brave petit enfant. Père, je me défie un peu de votre bonté. Tout le monde est, pour vous, un brave petit enfant. Mais non, nous sommes trop enclins, voyez-vous, à juger sévèrement les autres. Rien n'est plus injuste, car enfin, quand bien même un homme vous nuirait, cela ne prouverait pas qu'il n'ait jusqu'à un certain point raison. Il peut obéir à des mobiles qu'il croit équitables, en agissant de la sorte. Il voit différemment de vous. Et ce n'est pas un motif pour qu'il ait tort. Il convient de toujours imaginer des causes honorables aux persécutions auxquelles on peut être en but, afin d'être certain de ne point se tromper. Et puis, mon cher enfant, les humiliations et les souffrances sont excellentes. Vous devez faire Jésus en vous. Comment le ferez-vous si vous ne passez pas les soufflets et les crachats du prétoire ? D'accord. Mais vous êtes-vous bien assuré que si la bataille éclatait entre le presbytère et le cloître, vos moines ne préféreraient pas faire, comme vous dites, Jésus en le curé, plutôt que d'accepter qu'il le fasse en eux? Ce serait, il est vrai, très charitable, car on ne la sommerait que pour son bien. « Quel mauvais garçon vous êtes ce matin !» dit en riant le père de Fonneuve. « Mais nous voici arrivés à Dijon. Je vais chez mes filles du Carmel. Vous ne m'accompagnez pas ?»« Non, père, j'ai des achats à effectuer dans la ville. » Ils descendirent ensemble jusqu'à la place Saint-Bénigne. Arrivé là, le vieil historien fut incapable de se séparer de Durtal, sans lui avoir préalablement rappelé les fastes monastiques de l'ancienne abbaye, dont il ne subsistait plus que le sanctuaire, ressemelé sur toutes les coutures, rétamé de toutes pièces. Voici une des plus monumentales gloires de l'ordre bénédictin, fit-il, en prenant d'un geste qui lui était familier le bras de Durtal et l'attirant à lui pour lui parler, épaule contre épaule. C'était dans ce monastère de Saint-Bénigne que les ducs de Bourgogne, qui y venaient pour entrer en possession de leur duché, juraient sur les évangiles, au pied de l'autel, devant la chasse du saint, de ne pas toucher aux privilèges de leurs sujets. Et l'arbé leur saignait, après le serment, le doigt d'un anneau pour symboliser le mariage avec leur ville. Ce cloître, qui fut florissant au Xe siècle, lorsque le vénérable Guillaume, envoyé de Cluny avec 12 moines par saint Mailleul, parvint à désendormir ses religieux engourdis, dégénérant de nouveau lorsqu'il fut soumis au régime de la commande. Sa superbe collection de manuscrits s'émietta on ne sait où. Il fallut attendre la réforme de Saint-Maur pour réédifier de vrais moines, et Saint-Bénigne eut alors d'infatigables érudits tels que Don Beneteau, Don Lanthenas, Don Leroy, qui exploitèrent les archives des abbayes de notre province, Don Lanthenas surtout, qui fut l'un des collaborateurs de Mabillon. Il est juste de noter aussi Don Aubray, qui amassa des matériaux pour permettre au père Plancher d'écrire cette histoire de la Bourgogne dont vous avez pu voir les solides in-folios dans notre bibliothèque. Enfin, comme partout, la Révolution détruisit le monastère. L'église seule fut épargnée, mais quelle drôle d'idée que d'avoir été couvrir ces tours de tuiles de couleur qui lui donnent l'aspect d'une sparterie. Ce qui vaut mieux, par exemple, c'est d'avoir rétabli la crypte que l'on découvrit un beau jour en creusant le sol. Pour nous autres bénédictins, c'est un lieu béni, un lieu de pèlerinage que cette cathédrale. L'apôtre de la Bourgogne, le disciple de saint Polycarpe qu'il a baptisé de son nom, saint Bénigne, ne nous est pas très sûrement connu. Néanmoins, dans sa monographie de la cathédrale, l'abbé Chonton semble prouver que ce saint aurait subi le martyre au commencement du IIIe siècle. Les anciens hagiologues nous ont, en tout cas, conservé les détails de son supplice. Il aurait été écartelé à l'aide de poulies. On lui aurait enfoncé des haleines sous les ongles. On lui aurait scellé les pieds avec du plomb fondu dans une pierre qui existait encore du temps de Grégoire de Tours. Enfin, on le fit mordre par des chiens furieux, on lui asséna sur le col des coups de barre de fer, et comme il ne se décidait pas à mourir, on le perça d'une pointe de lance pour l'achever. Et c'est sur son tombeau même que fut bâtie l'église. Cet élu est naturellement un grand saint, mais naturellement notre dévotion est aussi et peut-être plus directement acquise à cet abbé de notre ordre qui fut la gloire et de la Bourgogne et de cette abbaye, le vénérable Guillaume. Celui-là fut élevé en qualité de petit oblat dans le monastère de l'Ossédia, en Italie. Puis il entra à Cluny et il fut, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, envoyé par son abbé, dont Mailleul, pour amender Saint-Bénigne, qui ne contenait plus qu'une troupe de religieux sans discipline, et dont les observances liturgiques étaient nulles. Il y apporta, avec la pratique de la règle de saint Benoît, une passion de la symbolique et de la liturgie, un amour de l'art et de la science vraiment extraordinaire. Il fonda des écoles libres, absolument gratuites, pour les clercs et pour le peuple. Il révisa le chant grégorien, dont les chantres avaient altéré les textes. Il voulut que les offices fussent impeccables, que le service de Dieu fût magnifique. Et il se révéla aussi tel qu'un architecte de première force, car il savait tout, ce moine. Il construisit son église abbatiale, disparue, hélas, et remplacée par celle qui est là, devant nous. Elle avait 9 tours, et toute la symbolique des Écritures se déroulait autour de son vaisseau. Elle s'érigeait sur une église souterraine dont la forme reproduisait le mystérieux Ézéchiel, image encore imparfaite de la croix, et qui remémorait les temps antérieurs au Messie, tandis que la nef, plus élancée, plus claire, représentait la lumière des évangiles, l'église du Christ. Et chaque nuit, pour confirmer le symbole, l'on descendait chanter matines dans la crypte, alors que les offices du jour se célébraient au contraire en haut, dans l'église. Tout était à l'avenant, les chapiteaux, les piliers, les statues s'associaient à l'idée générale de l'édifice. Ce furent les moines qui les sculptèrent. Le nom de l'un d'eux, Unald, nous est resté. L'abbaye était immense. Après avoir essaimé plus de 100 religieux dans diverses fondations, Guillaume en régissait autant à Saint-Bénigne, et, malgré la fatigue, malgré l'âge, il courait les routes pour régénérer les monastères en déshérence de Dieu. On le voit à Fécamp, à Saint-Ouen, au Mont-Saint-Michel, à Saint-Faron-de-Meaux, à Saint-Germain-des-Prés de Paris. On le trouve en Italie, à Saint-Fructuaré, où il adjoint à un couvent de bénédictins un cloître de monial. On le rencontre partout, jusqu'au moment où, épuisé par ses interminables voyages, il meurt en Normandie, et il y fut enterré dans l'abbaye de Fécamp. Guillaume était un artiste, un érudit, un administrateur prodigieux, et il était, ce qui est préférable encore, un admirable saint. Il faudra que je vous prête sa biographie écrite par l'abbé Chevalier. Mais je vous empêche d'aller à la messe, et je me mets moi-même en retard. Mon Dieu, ce que l'on devient bavard lorsqu'on le se fait vieux. Adieu, mon cher enfant, priez bien la Sainte Vierge pour moi. De mon côté, je la prierai, chez mes braves carmélites, pour vous. » Durtal le regardait s'éloigner d'un pas encore alerte, et il pensait. La belle existence que celle de ce bon moine, confiné dans l'étude et la prière. Et quelle belle vie aussi que cette vie bénédictine qui plane si haut, par-dessus les siècles et au-delà des temps. L'on ne peut vraiment s'acheminer vers le Seigneur avec des mouvements plus chaleureux et des chants plus nobles. Cette vie réalise l'initiation la plus parfaite, ici-bas, de l'office des anges, tel qu'il se pratique, et tel que nous le pratiquerons, nous aussi, là-bas. On arrive, la marche terminée, devant Dieu, non plus comme un novice, mais comme une âme qui s'est préparée, par une étude assidue, à la fonction qu'elle doit à jamais exercer, dans l'éternelle béatitude de sa présence. Quelles sont les occupations si agitées, si vaines des hommes en comparaison de celles-là? Ce père de Fauneuve, je me rappelle cette impression que j'éprouvais tant de fois pendant l'été ou l'automne dans sa cellule, alors que les paléographes de Paris ou de la province venaient le consulter sur certains points de l'histoire ecclésiastique ou sur l'authenticité de certains textes. J'évoquais très bien alors cette autre cellule où, à Saint-Germain-des-Prés, dont Luc d'Achery et son élève Mabillon discutaient avec leurs visiteurs sur les bases de la diplomatique, sur la véracité de telle charte ou la valeur de tel sceau. Le père de Fauneuve est aussi savant que don Luc d'Achery, mais quel est celui de ses élèves qui ressemble même de loin à Mabillon, voire même à de plus obscurs satellites de la congrégation de sa mort. Il est seul de sa taille ici, mais parmi ses clients laïcs, quel est celui qui peut se rapprocher de ce prodigieux Ducange, voire même de Baluse, ou de ces studieux libraires que furent les Anissons? L'étiage a donc baissé dans les deux camps, et il n'est pas équitable de ne jeter le discrédit que sur les moines. Que les savants laïcs soient, en général, plus forts que les religieux, cela paraît incontestable. Mais il n'en est pas moins acquis qu'en tenant compte de l'état de la science, à chaque époque, eux aussi sont, à n'en pas douter, fort inférieurs aux érudits qui fréquentèrent l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés au XVIIe siècle. Soyons donc modestes et indulgents. En attendant, avec ma manie de soliloquer à bâton rompu, je vais finir par manquer l'office, fit-il en pénétrant dans Saint-Bénigne. Une messe célébrée au grand autel prenait fin. Il vérifia le tableau des horaires près de la sacristie. Une autre devait la suivre. Il profita des quelques minutes qui allaient s'écouler entre les deux sacrifices pour faire le tour de la cathédrale. Elle était à trois nefs, de largeur régulière, de hauteur convenable, mais, mise en parallèle avec les grandes cathédrales, elle était minime et quasi nulle. Elle contenait un certain nombre de statues du XVIIe et du XVIIIe siècle, des œuvres honnêtes que l'on avait, après les avoir considérées, le désir de ne jamais revoir. Les vitraux anciens avaient disparu et avaient été remplacés par des carreaux blancs, ou, ce qui était pis, par cette hémétique de la vue des verrières modernes. Dans le transept de gauche se dressait une croix gigantesque, vert bouteille, sur laquelle un Christ, teint en gris, était couché, et deux anges se tenaient de chaque côté, montrant au Sauveur un acte de consécration au Sacré-Cœur et un plan d'église. En résumé, autant cette cathédrale était intéressante par les souvenirs monastiques qu'elle émouvait, autant elle était inerte au point de vue de l'art. Elle ne valait sûrement pas cette bâtisse en rotonde édifiée par le vénérable Guillaume et deux de ses anciens bas-reliefs relégués au musée archéologique de la ville. Était d'une autre envergure que ce tympan de Bouchardon emprunté à la vieille église de Saint-Étienne et qui la décore aujourd'hui. Durtal s'installa pour entendre la messe que l'on sonnait. Il avait beau la connaître par cœur, cette messe ne parvenait pas à le déravir. La vérité était que cette fête de l'Épiphanie lui était plus suggestive que tout autre. Que ce fût l'époque ou non de la célébrer, il y revenait sans cesse. Car outre la manifestation des rois mages et le souvenir du baptême du Jésus dans le Jourdain, l'Église devait remémorer en l'exaltant le miracle des noces de Cana. Ce miracle, lorsqu'il y réfléchissait, lui suscitait de longues rêveries. Il est en effet le premier qu'ait accompli le Christ et le seul qui ait pour cause un épisode joyeux, car tous ceux qui lui succédèrent ont été effectués dans le but de parer à des besoins de nutriments, dans le but d'opérer des guérisons, d'alléger les douleurs, de tarir les larmes. Jésus, que l'on voit pleurer, mais jamais rire, dans les Écritures, manifeste son pouvoir divin, avant l'époque qu'il paraissait s'être fixée, à propos d'un banquet pour égayer des convives, pour un motif insignifiant, pour une chose qui ne semble vraiment pas en valoir la peine. Son premier mouvement, lorsque la Sainte Vierge lui dit « Ils n'ont pas de vin », est le mouvement de recul d'un homme pris à l'improviste et qu'une demande indiscrète gêne. Et il répond « Femme, qu'est-ce que cela peut bien nous faire? Mon heure n'est pas venue. » Et Marie, d'habitude si attentive à deviner ses moindres désirs, à obéir à son moindre gré, ne l'écoute même pas. Elle laisse sa réflexion sans réponse et s'adresse aux échansons pour les avertir qu'ils aient à exécuter les ordres que va leur donner son fils. Et Jésus ne refuse pas, dès lors, de réaliser le miracle, et il change l'eau en vin. Cette scène, unique dans les évangiles, où l'on voit la Vierge se dispenser de l'assentiment de Jésus et lui forcer en quelque sorte la main pour obtenir de lui ce prodige qu'elle réclame, est extraordinaire si l'on en extrait le sens symbolique qu'elle recèle. Il ne s'agit pas en effet de contenter les convives dont l'appétit est déjà repu en les régalant d'un vin plus savoureux que celui qui leur fut jusqu'à ce moment servi. Il ne s'agit pas non plus du mariage d'un homme et d'une femme dont Saint Jean n'a même pas cru nécessaire de noter les noms. Il s'agit de l'union entre Dieu et l'Église, des joies nuptiales de notre Seigneur et de l'âme. Et ce n'est pas l'eau qui se métamorphose en vin, mais bien le vin qui se transmue en sang. Ces noces de Cana ne sont qu'un prétexte et qu'un emblème, car tous les exégètes sont d'accord pour reconnaître dans cette scène le symbole de l'Eucharistie. Il est avéré que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau, mais ne pourrait-on admettre aussi que certains passages des Évangiles préfigurent à leur tour d'autres des mêmes livres ? Les noces de Cana ne sont en effet que l'image avant la lettre de la scène. Le premier miracle produit par le Messie, au début de sa vie publique, annonce celui qu'il accomplira la veille de sa mort, et l'on peut même observer qu'ils se reflètent l'un l'autre en une sorte de miroir à l'envers, car saint Jean, qui écrivit son évangile pour confirmer et compléter l'œuvre de ses devanciers, saint Jean, dont le livre est postérieur à ceux de saint Matthieu, de saint Marc et de saint Luc, est le seul qui relate ce miracle. Les autres n'en parlent pas, et, lui, par contre, se tait sur la transsubstantiation du pain et du vin pendant la scène. Il y a, en cette histoire, une interversion étrange. C'est le dernier des évangélistes qui anticipe sur les premiers, qui montre, voilé ainsi que dans l'Ancien Testament, la figure du sacrement que dévoilèrent les synoptiques. Mais, poursuivait Durtal, les noces de Cana suggèrent encore d'autres remarques. De même que nous avons vu le Rédempteur pratiquer en cette scène son premier miracle, de même nous voyons Marie user pour la première fois de son droit de médiatrice et intercéder pour les nouveaux enfants qu'elle adoptera au pied du calvaire, pendant que son fils, étendu sur le lit de la croix, engendrera l'Église. Et elle n'attendit pas que les temps prescrits fussent révolus. Dans son impatience, elle devança l'heure et revendiqua tout du premier coup. Elle ne procéda pas par gradation. Elle ne limita pas d'abord l'objet de ses requêtes. Elle alla droit au but, demanda simplement, nettement, le summum des grâces. Elle voulut et obtint la promesse du magistère qui pouvait guérir et sauver les âmes des enfants dont elle allait être appelée à prendre soin, l'Eucharistie. Et le Christ cède à cette douce violence, et s'il se fait prier, s'il a l'air d'accepter une certaine contrainte, c'est qu'il veut enseigner ainsi que tout ce qu'il accorde, il ne l'accorde que par l'entremise de sa mère. Cet épisode de Cana est donc, en somme, le point de départ des deux dévotions, initiale et essentielle du catholicisme, le Saint-Sacrement et la Sainte Vierge. Et l'office qui est spécialement consacré à ce mystère, l'office du deuxième dimanche après l'Épiphanie, ne se célèbre même pas. On se borne à en lire les prières et l'Évangile à la fin de la messe du saint nom de Jésus qui le supplante. Il me semble que l'on aurait bien pu le conserver, le mettre au besoin un autre jour, à la place d'un saint. Mais c'est curieux, continua-t-il en sortant de la cathédrale et en gagnant à grands pas la place d'Armes, puis la place Rameau, pour entrer au musée. C'est curieux comme des miracles d'une importance souveraine passent inaperçus, sont en tout cas à peine explorés par les prêtres en chair et les fidèles. Quelle abjecte effigie ! Soupira-t-il, regardant en bas de l'escalier menant aux salles de peinture une statue de la République figurée par une fille aux épaules, aux bras, au buste, au sein d'une harengère de la halle et à la face chiffonnée d'un trottin de mode, au-dessous de laquelle était gravée l'expression à la fois imbécile et sacrilège « Stat in aeternum ». C'était un nommé Coutant qui avait sculpté cela. Durtal parcourut les galeries de la peinture contemporaine où se prélassait en bonne place un hivernal portrait du plus vieux Carnot par Yvon, un maréchal vaillant d'Horace Vernet, où l'ingéniosité de ce teinturier militaire se décelait par ce petit détail, Le maréchal, dont la tête était celle d'un notaire à toupet, du temps de Louis-Philippe, ne savait où caser l'un de ses bras, et le Vernet avait jugé original de le placer sur un tas de cuirasses qui reposaient elles-mêmes sur un tas de fascines, jusqu'à la hauteur voulue pour servir d'appui-main, le tout échafaudé dans un paysage de fantaisie aux couleurs grêles et acides. Puis une œuvre de jeunesse de Gustave Moreau, le Cantique des Cantiques, une toile plus que médiocre, du genre Chassériau, qui ne permettait guère de soupçonner le futur talent du peintre d'Hérodiade. Enfin, des cocasseries furieuses d'un Anatole de Vosges. Celui-là et M. François, son père, étaient les gloires bouffonnes de Dijon. Et le buste de l'un de ces deux, grotesque, avec une physionomie d'huissier et des pattes de lapin, le long des joues, se dressait sur un socle, dans l'une des salles. Cet Anatole de Vosges, il avait brossé une bâche inouïe. Cela s'appelait Hercule et Philo. La scène représentait une femme enchaînée, étreignant un gosse et s'efforçant de fuir les crocs d'un lion qu'un Hercule en colère étrangle. Le lion était issu, en droite ligne, d'une lionne de tête de chenet et d'un lion de descente de lit, et il semblait, en tirant la langue, surpris d'être traité avec aussi peu de ménagement par cet homme qui lui cravatait si étroitement le col. Hercule, lui, était énorme. Il avait le physique d'un Auvergnat que l'alcool a rendu fou. Il arborait des muscles outrés et tendait sur des jambes nues et grosses, telles que des poutres, un formidable derrière, quelque chose comme des ballons accouplés, comme des montgolfières conjuguées de percales roses. Quant à la femme, habillée d'une robe abricot et d'un péplum groseille, elle roulait, en signe d'effroi, des yeux blancs. Et l'enfant pleurait convenablement de pilules d'étain, suivant la formule de l'odieux David, dont ce peintre était l'élève. Ah, ce De Vosges, quel pleutre redondant, quel ganache épique! L'élément moderne du musée était donc inavouable. Et pourtant, dans cet amas de phénomènes biscornus et de pannes baroques, un tableau superbe surgissait sur un mur, l'ex-voto d'Alphonse le Gros. Il s'ordonnait ainsi. 9 femmes priaient devant un petit calvaire, dans un paysage de tapisserie au ton de laine demeuré vive. Sur ces 9 femmes, 7 étaient agenouillées côte à côte, et au premier plan, une, debout, vêtue de blanc, feuilletait un volume, tandis qu'une autre, également debout, et couverte d'un chapeau de paille, au fond de la toile, portait un cierge. Ces femmes, presque toutes âgées, étaient coiffées de bonnets blancs, accoutrées de toilettes de deuil, avec les mains jointes, sous des mitaines noires. Les visages et les mains de ces vieilles étaient d'une précision et d'une probité d'art qui stupéfiaient lorsque l'on songeait à la peinture hâtive et galopée de notre temps. Les expressions simples et concentrées de ces orantes recueillies, absorbées, loin des visiteurs, devant la croix, dégageaient une saveur religieuse réelle. Les traits étaient encharbonnés comme creusés au burin, et, dans cette œuvre forte et sobre, qui paraissait exécutée par un peintre graveur de l'école d'Albert Durer, la femme en blanc évoquait, elle, le souvenir de Manet, mais d'un Manet mieux pondéré, plus savant, plus ferme. C'était à coup sûr la plus belle toile de Le Gros que Durtal eût encore vue. Que faisait-elle là, noyée dans ce déballage de loques et ses rebuts, alors qu'elle eût si victorieusement figuré dans le salon de l'école française au Louvre? Elle était marquée dans le catalogue sous le titre de « Don de l'artiste à sa ville natale ». Ah ! Bien, ce que la dite ville semblait plus fière de son De Vosges, dont le nom se prélassait à un coin de rue, que de l'auteur de ce présent relégué dans le pêle-mêle de ses pannes. Ces salles de l'école moderne française mises à part, le musée de Dijon était, en tant que musée de province, abondamment pourvu. Il détenait des collections de bibelots, de faïences, d'ivoire, d'émaux, d'estampes, de bois, vraiment honorable. Monsieur Is de la Salle l'avait en outre doté de dessins de maître curieux. Mais là où il devenait princier, l'égal des grands musées, c'était dans l'ancienne salle des gardes, qui contenait les mausolées en marbre de Dinan et en albâtre de Tonnerre des ducs Philippe le Hardi et Jean sans peur. Ces tombeaux, brisés pendant la Révolution, avaient été expertement reconstitués avec leurs débris et redorés et repeints. Le premier avait pour auteur divers imagiers, le flamand Jean de Marville qui traça le plan et les dessins et mourut à la tâche. Le hollandais Claus Schlüter lui succéda et trépassa à son tour, et ce fut son neveu Klaus Deverve qui acheva l'œuvre de ces deux dévanciers. Dans quelle mesure? Il est assez difficile de le dire. Cette œuvre était ainsi conçue. Le corps de Philippe le Hardi était placé sur une table de marbre noir, entre les pieds de laquelle s'étendait, sous les quatre côtés, un petit cloître gothique, peuplé de minuscules moines et de gens de la suite du prince. Philippe le Hardi, enveloppé du manteau ducal d'azur, doublé d'hermine, posait ses chaussures, aux lames articulées de fer, sur le dos d'un lion bénévole, et sa tête sur un coussin, derrière lequel deux anges, aux ailes déployées, soutenaient un aume. Le second avait été commandé à un Espagnol, Jean de la Huerta, ou de la Verta dit d'Ajacola. Mais celui-là ne fit rien ou presque rien, et ce fut un Antoine le Moiturier, ou le Mouturier, qui termina, s'il ne sculpta pas en entier, le cénotaphe. Son ordonnance était calquée sur celle du premier tombeau. Le duc Jean et la princesse Marguerite de Bavière, sa femme, étaient couchés côte à côte sur une plateforme de marbre noir, au-dessous de laquelle s'allongeait, entre les quatre pieds, un cloitrillon ogival, aux galeries pleines de religieux. Le chef des époux était appuyé sur des coussins, et leurs extrémités sur les reins serviables de petits lions. Et des anges s'agenouillaient derrière eux, les ailes grandes ouvertes, présentant l'un le casque du duc, l'autre l'écu armorié de la princesse. Ce mausolée était plus ouvragé que le premier, les sculptures plus surchargées de volutes, de chicorées, de fleurons. Le souvenir s'attestait aussitôt des paraffes, des frisures, des boucles de l'ornementation de l'église de Brou, cette fin du gothique qui, après s'être corrompu en vieillissant, rejette sa robe de pierre pour mourir impur, nu, sous un linceul de dentelle. Les fauves de ce monument étaient des fauves de pendule, et il ne leur manquait sous la patte qu'une boule. Les princes et la princesse, gisant sur l'âme, ne différaient pas par leur attitude conventionnelle des statues funéraires de l'époque. La beauté de l'œuvre n'était point dans ses froides effigies, ni même dans ses anges blonds et charmants, mais conçus eux aussi d'après une formule que nous retrouvons chez la plupart des primitifs des Flandres. Elle résidait dans les figurines debout, sous les arcades naines du cloître. Elles avaient dû portraiturer toutes, d'abord, des religieux de différents ordres, se lamentant sur le trépas des princes. Elles devaient se composer exclusivement de pleurants. Mais la verve des ouvriers d'image avait rompu le cadre restreint de la commande, et au lieu de gens en larmes, ils avaient saisi l'humanité monastique de leur temps, triste ou gaie, flegmatique ou fervente. Et, à vrai dire, la plupart de leurs statuettes ne songeaient à rien moins qu'à déplorer le décès des ducs. Ils avaient, en tout cas, réalisé des merveilles d'observation, fixé des maintiens pris sur le vif, des postures croquées au vol. Aucune de ces figurines si expressives, mais malheureusement plus ou moins réparées et un peu campées au hasard quand l'on avait reconstitué ces tombes, ne se ressemblait. Et l'on demeurait véritablement confondu par l'incroyable adresse de ces imagiers qui, mis en face de modèles presque semblables, de visages rasés presque uniformes, de robes quasi pareilles, avaient su diversifier chaque moine d'un autre exprimer en un simple jeu de physionomie son tréfonds d'âme, faire sourdre de l'ordonnance même des draperies et du cadre des capuchons, abaissés ou relevés, le caractère précis de l'homme qui les portait. Ils avaient voulu beaucoup moins, en somme, décrire l'effet produit sur des religieux par l'annonce de la mort de l'un ou de l'autre de leurs bienfaiteurs, que donner comme un instantané de la vie courante des cénobites. Et ils les avaient effigiés, l'abbé en tête, mitré et crossé, tenant le livre ouvert de la règle, regardant d'un air impérieux et méfiant des moines qui pleurent ou lisent, méditent ou chantent, égrènent leur rosaire ou, désœuvrés, s'ennuient. Un même se mouche, tandis qu'un autre se cure tranquillement l'oreille. L'on pouvait se délecter pendant des heures devant cette œuvre sculptée par des artistes de belle humeur qui connaissaient bien leurs amis du clergé régulier et s'amusaient sans méchanceté à leurs dépens, tant elle dégageait une joie expansive d'art. Et Durtal se séparait d'elle à regret, car ses très anciens cloîtriers évoquaient devant lui ceux du Val des Saints, avec des ressemblances de port, de gestes souvent frappantes. N'était-ce pas don de Fauneuve, ce vieux père, souriant et pensif, le col enfoncé très haut, derrière la nuque, par son capuchon coupé suivant l'antique mode de Saint-Maur? N'était-ce pas don d'Aubroche, ce jeune, au cou dégagé, au contraire, par un capuchon moins ample, confectionné selon d'autres coutumes? N'était-ce pas don Feltin, cet autre qui regardait à ses pieds, absorbé par une recherche? N'était-ce pas aussi le premier chantre Ramondou, ce gros qui maniait un graduel en ouvrant la bouche? Seul le père abbé différait. Celui du Val des Saints n'était ni impérieux ni méfiant, mais si démodère, si franc.